On est en compagnie de Jean-Louis Briquet pour nous parler du berlusconisme, de l'émergence de la nouvelle droite, de la nouvelle droite italienne et de beaucoup d'autres sujets, notamment de la réaction de la gauche italienne face à ces transformations politiques. Donc on abordera tous ces sujets pendant l'émission. Mais tout d'abord, je vais vous présenter Jean-Louis Briquet, donc qui est chercheur au CERI, chercheur CNRS au CERI, qui a commencé ses recherches sur la Corse. Il a publié notamment La tradition en mouvement, clientélisme et politique en Corse, et l'a poursuivi sur des terrains qui ne sont pas si éloignés que ça, ni géographiquement, ni politiquement, puisqu'il a travaillé notamment sur les processus politiques non officiels, clientélisme, corruption, mafia et politique en Italie. Il a habité en Italie. Et il va publier dès janvier 2007 un ouvrage qui s'appellera « Mafia, justice et politique en Italie, l'affaire Andreotti dans la crise de la République 1992-2005 aux éditions Cartala ». Il est par ailleurs grand timonier et rédacteur en chef de l'excellente revue Politics. Donc, merci Jean-Louis.
La publicité fait toujours du bien, merci.
En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, on va commencer sur un sujet qui va nous traîner assez loin, en te posant une question. Donc, ce que tu évoques dans tes articles, c'est que l'arrivée du berlusconisme, c'est un bouleversement et un basculement politique très très rapide qui pourra peut-être faire écho à ce qu'on pourra rencontrer dans d'autres pays. C'est pour ça qu'on a envie de commencer l'entretien avec toi sur cette situation du début des années 90, sur le basculement politique opéré par la droite italienne.
Oui, effectivement, je crois que ce qui est intéressant dans le cas italien, et sans faire de parallélisme inutile, enfin en tout cas difficile avec d'autres pays, en tout cas ça peut au moins nous alerter, nous interroger sur la façon dont effectivement un jeu politique relativement stabilisé, celui de ce qu'on appelle la Première République en Italie, donc en gros l'Italie des années 50 jusqu'aux années 90, où s'opposait une démocratie chrétienne au pouvoir, le parti dominant au pouvoir, avec quelques alliés, et un parti communiste qui monopolisait l'opposition. Comment ce jeu-là, en très très peu de temps, en l'espace de 2 ans à peu près, bascule complètement, et que si on regarde l'Italie de 1991 et l'Italie de 1994, on est dans deux Italies totalement différentes. C'est-à-dire qu'en 1994, on va voir des phénomènes totalement inouïs, impossibles à penser 3 ans avant. On va voir par exemple le parti ancien fasciste, enfin qui à l'époque, en 94, s'appelait l'Ordre National, qui est donc un parti qui vient du mouvement social italien, le parti fasciste historique, donc qui était un parti, d'une certaine manière, indigne dans le champ politique, qui avait eu des alliances avec la démocratie chrétienne, mais très très limitées, donc un parti qui était rejeté aux marges du jeu politique officiel, qui va devenir un allié de gouvernement de qui? De Silvio Berlusconi, homme politique, plus grande fortune d'Italie, qui lui-même n'avait pas fait de politique jusqu'aux années 90, même s'il était lié à Craxi et au PS. Enfin, qui va créer un parti qui crée de rien, hein, qui crée à la fin de 93, début 94, et qui remporte 20% des élections trois mois après. Allié aussi avec une partie de l'ancienne démocratie chrétienne qui, en 2 ans, a complètement disparu, en tout cas, c'est complètement délité. Et un parti qui est la Ligue du Nord, qui a émergé, qui s'est affirmé à la fin des années 80, et qui est un parti ouvertement xénophobe, voire sécessionniste. Donc tout ça pour dire que ce qui me semble intéressant dans le cas italien, au-delà de l'intérêt, disons, historique de l'analyse de l'Italie, c'est nous alerter aussi sur les possibilités de basculement très très rapide du jeu politique et de translation droitière, puisqu'on, d'une certaine manière, on va voir se légitimer dans l'espace politique des partis qui sont des partis très marqués à droite, hein. Berlusconi lui-même ayant un discours très marqué à droite, hein, et puis une gauche social-démocratisée, en suivant un petit peu ce mouvement de translation, on va voir ce phénomène se passer en très très peu de temps. Donc je pense que c'est pour ça un exemple utile à l'heure actuelle.
Alors, juste pour faire un pas en arrière, on arrive en 93-94 dans une situation politique majeure de crise en Italie. Qu'est-ce qui fait exploser tout ça? Qu'est-ce qui fait que la classe politique se retrouve dans cet état-là?
Alors, il y a plusieurs explications. Disons, d'un point de vue purement historique, hein, ce qui se passe, c'est qu'en 92, en Italie, se déclenche toute une série de scandales politico-financiers, hein, qui renvoient surtout dans le Nord à des phénomènes de corruption qui vont être violemment dénoncés par la magistrature, par la presse, puis par une partie de la classe politique. Dans le Sud, des phénomènes de corruption plus liés à la réalité mafieuse, mais enfin globalement, on va voir toute une série de scandales qui vont mettre en cause d'abord des élus locaux, surtout à Milan, puis ensuite des dirigeants de partis. Et pour vous donner un exemple, enfin un chiffre très simple et qui est assez significatif, en 93, il y a plus de 150 parlementaires qui sont impliqués dans des enquêtes pour corruption, ce qui est énorme. Hein. Et donc effectivement, c'est ce phénomène-là qui va être, disons, là, à l'origine, ou en tout cas un des vecteurs importants, de l'écroulement de l'ancien système de pouvoir, de l'écroulement de la démocratie chrétienne. Ce qui me semble intéressant, enfin il faudrait rentrer dans le détail de cette crise, c'est que c'est pas tellement le dévoilement des affaires ou la question morale qui, à mon sens, crée la crise politique. Parce que de toute façon, en Italie, la dénonciation de la corruption des affaires, elle est très très ancienne. Vous avez des groupes dès les années 80 à Milan, un groupe qui s'appelle Société Civile, qui dénonce la corruption. Il y a des affaires de corruption judiciaire, il y a des hommes politiques qui sont impliqués. Dans le sud de l'Italie, en tout cas en Sicile, le mouvement anti-mafia est très fort dès les années 80. Il y a des associations, d'ailleurs aussi bien de gauche que de venant des milieux catholiques, qui sont très très actives dans la dénonciation des collusions politico-mafieuses, en gros de la politique affairiste et criminelle dans le Sud. C'est pas pour ça qu'il y a crise politique. Hein. Alors il faudrait rentrer dans le détail de ce qui se passe réellement en 92. Je pense qu'il y a plusieurs phénomènes. D'abord, effectivement, un phénomène de déferlement des scandales, c'est-à-dire que les scandales ne sont pas limités à quelques réalités géographiques, mais ils vont se passer. Bon, c'est d'abord Milan, puis ensuite c'est la Vénétie. Enfin, il va y avoir une accumulation des scandales. Et surtout, on va voir toute une partie de la classe politique traditionnelle se rallier d'une certaine manière à la dénonciation de l'ancien système. Hein, au sein même des partis de gouvernement, disons les jeunes générations, pour le dire vite, de la démocratie chrétienne, hein, vont d'une certaine manière se dire bon, c'est peut-être aussi une opportunité pour nous de prendre position dans un espace politique dans lequel on est quand même relativement marginalisé. Il faut voir que l'Italie, à la différence de la France, c'est un pays dans lequel, entre les années 50 jusqu'aux années 90, la classe politique, il n'y a pas eu de moment de rupture et de renouvellement de la classe politique, comme par exemple en France a pu être 58-62, le moment du gaullisme, où il y a un renouvellement quand même des élites. En Italie, des gens comme Andreotti, un peu un symbole de cette première république, qui arrive sur la scène politique nationale dès les années 50, et qui est un grand notable, président du conseil, ministre, etc., pendant toute la période, jusqu'en 92, et qui est accusé d'association mafieuse et de complicité mafieuse. Bon, il sera ensuite acquitté. Mais tout ça pour vous montrer aussi que ces personnalités, ces espèces de grands notables de la démocratie chrétienne, sont des gens qui occupent le pouvoir, et on voit d'autres générations, des générations plus jeunes au sein de ces partis de gouvernement, hein, peut-être se saisir de ces scandales, appuyer les juges, appuyer les dénonciations morales pour prendre position dans l'espace politique. On voit aussi d'autres acteurs qui prennent position, des acteurs de la société civile, des acteurs militants, etc., qui d'une certaine manière utilisent cette crise morale, pour le dire dans ces termes, pour s'affirmer sur le champ, dans l'espace politique. Puis ensuite, c'est vrai que la situation va leur échapper complètement, puisque cette situation de crise va permettre, d'une certaine manière, à quelqu'un comme Berlusconi, qui est quelqu'un complètement extérieur au jeu politique, qui a énormément de ressources, mais va permettre à Berlusconi de se présenter comme une solution possible à la crise, un homme nouveau, un homme qui n'est pas dans l'ancien système, un homme qui casse le jeu partisan.
Mais pourquoi Berlusconi se lance-t-il dans la carrière politique? Il n'était pas prédestiné à ça?
Alors le pourquoi, les questions, le pourquoi, c'est difficile à y répondre. Alors il y a des gens qui vont dire, et c'est certainement vrai, que d'une certaine manière, je crois qu'il faudrait réfléchir aussi à la façon dont se transforme dans ces années-là les systèmes de collusion ou de négociation entre le monde des affaires et le monde politique. Hein. C'est-à-dire que Berlusconi, c'est quelqu'un qui fait sa fortune d'abord dans des grands projets immobiliers, puis surtout ensuite par la télévision commerciale et par la publicité, et qui pour cela, manifestement, a des appuis très forts au sein de la classe gouvernementale, et notamment, je l'ai dit tout à l'heure, de la part de Craxi, qui a été président du Conseil dans les années 80, et du Parti Socialiste. Hein. Alors là, peut-être pour des gens qui ne connaissent pas trop l'Italie, quand on dit Parti Socialiste en Italie, à cette époque, le Parti Socialiste est l'allié de la démocratie chrétienne, donc d'une certaine manière, c'est un parti de droite, pourrait-on dire. Hein. C'est pas, en tout cas, qui est allié à un parti de droite, c'est pas du tout la configuration française. Donc effectivement, on peut faire une hypothèse assez juste, que à partir du moment où ces référents de Berlusconi dans le monde politique s'écroulent, hein, notamment le Parti Socialiste, il va en chercher d'autres. Et c'est vrai qu'en 93, on voit Berlusconi qui commence à, qui tente d'aider, d'appuyer, maintenant on le sait puisqu'il y en a beaucoup de témoignages, des hommes politiques italiens dont je ne citerai pas le nom parce que c'est pas très important, mais des gens comme Seni, enfin des figures émergentes, hein, puis ça marche pas. Et on peut penser effectivement qu'il a une stratégie d'entrisme en politique pour défendre ses intérêts économiques. Ça semble assez clair. C'est une des raisons principales. Mais je pense que plutôt que le pourquoi, parce que là, ça demanderait à essayer de s'interroger sur. C'est aussi le comment. Qu'est-ce qui fait que c'est rendu possible? Parce que.
Justement, avant d'insister plus précisément sur la figure de Berlusconi, est-ce qu'on pourrait revenir sur un des acteurs essentiels en fait de cette lutte anticorruption, à savoir les juges, et revenir un petit peu sur l'opération main propre, puisqu'elle a eu un impact assez considérable ensuite sur l'évolution de tout champ politique en Italie, et notamment de l'émergence, paradoxalement, de la figure de Berlusconi.
Oui, c'est ça. Ça fait partie, peut-être, vous avez raison de dire paradoxal, parce que, alors, il faut bien évidemment ne pas dire que Berlusconi est le produit de cette révolution judiciaire, parce que l'histoire se fait, les acteurs agissent inconsciemment dans l'histoire. C'est-à-dire que les juges n'avaient absolument, les juges ou certains magistrats n'avaient bien évidemment aucune intention de faire arriver au pouvoir quelqu'un comme Berlusconi ou des personnages similaires. Et d'ailleurs, une partie importante de la magistrature italienne après 94, donc quand Berlusconi commence à gagner les élections, puis donc s'impose au fur et à mesure comme un personnage, disons, dont on peut penser qu'il va être pérenne dans l'espace politique italien, une partie de la magistrature va avoir une action très, j'allais dire hostile. Alors ça m'embête de dire hostile, parce qu'une certaine manière, là aussi, c'est penser une intention, enfin, en tout cas, va dénoncer très fortement Berlusconi au nom de la corruption, des affaires judiciaires dans lesquelles il pourrait être. Donc tout ça pour dire que, bien évidemment, le caractère paradoxal, involontaire, inconscient des processus historiques est très important à noter. Mais c'est vrai que cette crise morale, cette dénonciation de la corruption de la part des juges, et pas tant cette dénonciation que les relais que ça va avoir ensuite dans l'espace politique, dans l'espace de la haute fonction publique. Ce serait intéressant, par exemple, de réfléchir à la manière dont une partie de la gauche italienne, mais aussi les partis, disons, qui sont liés à la démocratie chrétienne, qui sont ce qu'on appellera en France des hauts fonctionnaires modernisateurs, vont aussi se saisir à une période qui est aussi la période donc de la mise en place du traité de Maastricht, puis de la mise en place, disons, de l'entrée, pourrait-on dire, de l'Italie dans l'Union européenne et dans la monnaie unique. Comment ces modernisateurs vont se saisir aussi de ces scandales pour tenter de, au nom de la lutte contre la corruption, de casser un petit peu les rigidités, les relations de qui pouvaient exister entre les anciens notables de la démocratie chrétienne et certains groupes économiques. Donc, les relais que vont avoir ces juges dans le monde politique, dans le monde de la haute fonction publique, dans le monde journalistique, vont, à mon sens, amener à faire que la revendication de nouveauté, qui va être celle que va avoir Berlusconi en disant « je suis un homme d'affaires, je suis efficace, je suis pas comme ces politiciens qui sont corrompus, qui parlent, qui agissent pas, etc. » Donc tout ce qu'il va mettre en scène pour s'affirmer dans l'espace politique, cette ressource-là a de la valeur. C'est ça que je trouve intéressant, parce que quand vous regardez, par exemple, les carrières typiques des hommes politiques en Italie jusqu'aux années 90, le fait d'appartenir au monde de l'entreprise, c'est pas du tout quelque chose qui est valorisé. C'est même plutôt quelque chose qui est considéré comme, je dirais, négatif ou peu utile dans les cursus honorum, hein, des hommes politiques. Les hommes politiques italiens, ils sont formés dans les partis politiques. Il y a des différences entre le Parti communiste et la démocratie chrétienne, mais enfin, globalement, on voit qu'avant de devenir député, il faut avoir été élu local, il faut avoir, ou alors une permanente partie. Enfin, il y a tout un cursus dans les partis qui fait que les hommes d'affaires, proprement dit, ou les hommes issus du monde économique, n'ont pas les ressources nécessaires pour s'imposer dans l'espace politique. Et la crise va faire qu'effectivement, certaines figures, dont Berlusconi est un exemple, vont réussir à s'imposer au nom de cette nouveauté, au nom de cette extériorité, hein, au champ politique légitime.
Alors toujours pour continuer à dresser un petit peu le tableau de ce qui se passe en 94, quelque part c'est la réapparition dans le champ politique légitime, ou en tout cas l'exercice du pouvoir, de l'extrême droite qui avait été tenue à l'écart depuis la Seconde Guerre mondiale. D'abord, quelle extrême droite c'est des fascistes, c'est des néo-fascistes, c'est quoi, ils sont quoi?
C'est toujours difficile de définir des mouvements en fonction de leur idéologie supposée, surtout dans les périodes de crise, ou pour des raisons stratégiques, et aussi peut-être pour des raisons idéologiques, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que, par exemple, un parti comme le MSI, donc le Mouvement Social Italien, qui se revendique de l'héritage fasciste. Fini, qui est donc encore aujourd'hui son secrétaire général, en 94, continue à dire que Mussolini a été un des plus grands hommes d'État du XXe siècle. Il y a des travaux de sociologues qui ont travaillé sur les cadres du parti dans ces années-là, je crois que c'est 92, qui montrent comment les références au fascisme italien, etc., sont très puissantes. Une partie importante des cadres de ce mouvement social italien sont des gens qui ont culture politique fasciste, sont des activistes des mouvements d'extrême droite en Italie, dont vous savez certainement qu'ils ont été... Ils ont eu un rôle important dans la lutte contre l'extrême gauche, dans la période des années de plomb, dans la période des années 70 et 80. Effectivement, c'est un parti qu'on peut qualifier comme un parti d'extrême droite et qui se qualifie comme tel, mais qui, à partir du moment où il va y avoir des opportunités d'accession au pouvoir, va développer une stratégie de recentrage qui va se traduire, par exemple, par le changement de nom. Ils vont s'appeler Alliance Nationale, donc toujours nationale, etc., mais non plus Mouvement Social, qui renvoie, là, très explicitement à l'histoire fasciste. Fini va commencer à revendiquer au fur et à mesure sa rupture, c'est pas vraiment une rupture avec le fascisme, en tout cas la transformation du parti en un grand mouvement, conservateur, type le parti conservateur italien. Il va faire plus tard, hein, dans les années 2000, toute une série d'actes symboliques importants. Toujours Fini, par exemple, c'est lui qui va aller en Israël, ce qui pour un homme, enfin, étiqueté de cette manière, est quand même un acte fort. C'est lui qui va même revendiquer, quand il était encore au gouvernement, avait en créant énormément de problèmes, aussi bien dans la majorité de droite qu'au sein de son propre parti, le droit de vote des émigrés aux élections locales. Donc il y a toute une série de stratégies de repositionnement, de recentrage, pourrait-on dire, d'alliance nationale, qui effectivement permettent de dire que je sais pas si c'est un parti fasciste ou non, mais en tout cas manifestement c'est vrai que les stratégies d'insertion dans l'espace du pouvoir officiel ont amené à redéfinir l'identité de ce parti. Alors après, en quoi ça, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet sur l'idéologie et les croyances de aussi bien de ces militants que de ces électeurs, j'avoue que là c'est difficile à y répondre de manière directe.
Et donc le deuxième allié de Forza Italia, de Berlusconi, c'est la Ligue du Nord.
La Ligue du Nord, oui. Alors la Ligue du Nord, c'est un parti très particulier, parce que c'est un parti qui en vérité une alliance de toute une série de groupements régionalistes du nord de l'Italie, qui se développe dans les années 80, et Umberto Bossi, qui va devenir le leader de la Ligue, réussit à fédérer toutes ces ligues régionales autour d'un discours, alors là, violemment antifiscaliste, anti-État, anticentraliste, hein, c'est Rome, les voleurs, anti-sudiste, hein, vous savez certainement aussi qu'en Italie, l'opposition entre le nord riche et le sud pauvre est très forte, donc un discours... contre le sud assisté, le sud clientéliste, etc., alors que le nord est un nord productif, hein, contre les émigrés de plus en plus, hein, il va y avoir le discours anti-émigré et xénophobe de la Ligue, et une constante depuis donc la création jusqu'à nos jours. L'Italie, c'est quand même un pays où, pour vous donner un petit peu une image de ce discours-là, Bossi, donc, qui allait, au moment où il est, ministre, hein, donc c'est 2001-2003, participe à une manifestation dans le nord du pays, où les slogans qui sont criés dans cette manifestation, c'est « Oui à la polenta », la polenta c'est le plat typique du nord de l'Italie, « Non au couscous », hein, ou « Honnête citoyen dénonce le clandestin ». Donc, et alors qu'il est ministre, vous voyez, je sais pas, en France ce serait même difficile à imaginer, on voit peut-être Le Pen dans une manifestation comme ça. Et encore avec des jeux, on voit pas un ministre, hein. Donc c'est quand même un parti qui a utilisé le discours xénophobe, parfois même la menace sécessionniste, de manière constante et très violente, tout en jouant de manière très très différente la Ligue. Là aussi, je crois que la manière dont les partis se positionnent, ou des groupes politiques se positionnent dans des jeux de pouvoir, explique aussi beaucoup leur variation. Par exemple, la Ligue a toujours eu une stratégie de radicalisation de ses positions et de son discours, notamment avec la xénophobie, qui est un des répertoires, ou le racisme, un des répertoires typiques de la radicalisation, à des moments où ils pensaient perdre, enfin où la Ligue pouvait penser perdre sa base militante structurante au profit de Forza Italia. Hein. Donc il y a des moments de relance du discours de radicalité au sein de la Ligue pour se positionner contre, hein, ou en tout cas dans une distinction par rapport à Forza Italia. Et par contre, à d'autres moments, notamment les moments de négociation gouvernementale, quand la Ligue commence à essayer d'avoir des positions au sein du gouvernement ou au sein des régions, des collectivités locales, hein, là, des discours de beaucoup moins radicaux.
À la mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, 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 alla mattina, appena alzata, in risaia mi tocca andare, e fra gli insetti le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti e le zanzare, un duro lavoro mi tocca fa', oh mamma mia, che tormento, oh bella ciao, bella ciao, 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 oh mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni domani, io ti invoco ogni
stamattina, mi sono alzato,
io ti invoco ogni doma,
partigiano portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano portami via, che mi sento di morire, e se muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, e le genti che passeranno, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano morto per la libertà, e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà, morto per la libertà.
Et oui, on se retrouve sur Fréquence Paris Pluriel en compagnie de Jean-Louis Briquet qui nous parle du berlusconisme et de la nouvelle droite italienne. Donc là, on vient d'entendre Bella Ciao dans sa version originale. Jean-Louis, tu peux peut-être en dire un petit mot.
Oui, outre le fait que le disque, enfin, si c'est le même que celui de Chonet, est un disque absolument magnifique, enfin, un très très beau disque de chants populaires traditionnels italiens. Ça, c'est la première, enfin, j'ai pas entendu puisqu'il n'y a pas de retour son, mais la première version très très lente, c'est des chants d'ouvrières dans les rizières qui racontent comment elles se lèvent tôt le matin, qu'elles partent donc dans ce travail qui est un travail d'une grande souffrance, chant qui a été ensuite repris comme un chant résistant que tout le monde connaît.
Donc on continue l'entretien. Tu parlais justement de la recomposition du paysage politique italien à la suite du début des années 90. Une chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment ces différentes organisations de droite, d'extrême droite, arrivent à se recomposer entre elles, à s'allier entre elles, notamment la Ligue du Nord qui est presque séparationniste, et l'Alliance nationale ou la droite classique qui sont attaché justement à l'unité nationale, sur quel mode, comment cela est...
Non, c'est vrai que ça a été un problème et ça l'est encore dans la cohésion gouvernementale. En même temps, bon, l'Italie, c'est un pays parlementaire, c'est-à-dire qu'il y a aussi toute une série de jeux d'alliances parlementaires qui peuvent expliquer que, pour des raisons de stratégie de pouvoir, des groupes qui sont parfois opposés idéologiquement peuvent très bien trouver des espaces de négociation. Juste une chose quand même, peut-être une parenthèse que je ferme très très vite. La majorité berlusconienne qui se forme en 94 et qui donc gagne les élections en 94, ensuite les perd en 96, mais reprend ensuite le pouvoir en 2001 et puis les repère donc en 2006 pour avoir une espèce de chronologie donc des élections de cette année. Bon, cette majorité est formée de Forza Italia, le parti de Berlusconi, de ces partis d'extrême droite dont tu viens de parler, la Ligue et d'extrême droite. On pourrait plus les qualifier comme tels, puisque eux-mêmes se labellisent pas comme tels. Moi, j'ai pas vocation à qualifier un parti d'extrême droite si lui-même se qualifie pas comme tel. Mais enfin, de ces partis issus de l'extrême droite, l'Alliance nationale et la Ligue, mais aussi d'une grande partie quand même de l'ancienne démocratie chrétienne qui, quand elle a explosé dans les années 94, à partir de 93 puis 94, puis ensuite, a éclaté en petits partis. Je veux pas faire l'histoire parce que. Petits partis qui, pour certains, sont allés vers la gauche et d'autres sont allés vers la droite. Juste pour quand même pour donner un élément de purement informatif. Et c'est vrai que donc cette coalition de centre-droit dont j'ai un petit peu décrit les composantes est tiraillée par des conflits très très forts. C'est vrai que par exemple la scission électorale d'Alliance nationale, c'est plutôt le sud. Alliance nationale a plutôt un discours étatiste, pourrait-on dire, de soutien à certains groupes. Fonctionnaires, enfin certains fonctionnaires ou d'autres, alors que la Ligue a un discours très libéral et surtout un discours sécessionniste. Et par exemple, en 94, en fait, ce sont deux coalitions qui se présentent dans le sud et dans le nord. C'est-à-dire dans le nord, c'est Forza Italia qui est alliée avec la Ligue, et dans le sud, c'est Forza Italia qui est alliée avec Alliance Nationale, ce qui fait que de fait, il n'y a pas d'alliance entre la Ligue et Alliance Nationale, la Ligue ayant tout son électorat au nord. Il y a l'électorat de la Ligue au sud est absolument inexistant. Et c'est vrai que la Ligue va jouer aussi de ces oppositions, justement à des moments de, comme je parlais un petit peu tout à l'heure, des stratégies de radicalisation, à des moments où, pour des raisons, parce que je sais pas, ils estiment qu'ils ont des risques de perdre leur électorat, etc., ils vont jouer des stratégies de rupture. Et d'ailleurs, c'est en 94, c'est Berlusconi est obligé de quitter le pouvoir, c'est parce que la Ligue fait défection de la majorité parlementaire et que Berlusconi n'a plus de majorité. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que tous ces c'est que à mon avis, ce qui compte pour comprendre ces phénomènes politiques, c'est pas tellement les positions idéologiques qui sont labiles et qui sont instrumentalisées dans certains cas, que des stratégies de pouvoir qui font que les positions idéologiques vont s'adapter aussi à ces stratégies. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas des partis qui ont des positions idéologiques très claires. Par exemple, c'est vrai que mais c'est des espaces de négociation. La Ligue a manifestement, en 2001, donc quand Berlusconi revient au pouvoir, la Ligue négocie son alliance avec Berlusconi en échange de la promesse de faire adopter une loi qui d'ailleurs ne sera pas, enfin, en tout cas une réforme constitutionnelle aboutissant à donner beaucoup plus de pouvoir aux régions. Parce que, bon, alors ça peut renvoyer à la fois à des raisons ou des logiques idéologiques, hein, parce que, effectivement, puis à des raisons, des impératifs de pouvoir, dans le sens où la Ligue, ayant une concentration de son électorat très fort dans certaines régions du Nord, peut effectivement avoir des bénéfices politiques très immédiats à une plus grande décentralisation, comme on disait en Italie, d'évolution des pouvoirs centraux aux pouvoirs locaux. Donc effectivement, c'est des tensions, mais d'une certaine manière, la gauche connaît aussi les mêmes tensions, enfin les mêmes, en tout cas la même nature de tension. Hein. Je rappelle, parce qu'on en parlera peut-être un petit peu plus tout à l'heure, mais que la gauche italienne, dès cette époque-là, ça va de Rifondazione Comuniste, qui est un des groupes qui a refusé le tournant néolibéral, le tournant néo-travailliste, pourrait-on dire, ou travailliste du Parti communiste italien, qui devient parti des démocrates de gauche en 89, 91, donc qui se qui là aussi change de nom et change d'identité en se définissant comme un parti réformiste, travailliste. Donc ça va de Refondation Communiste, qui sont ceux qui refusent cette transformation, jusqu'à toute une série de groupes issus de l'ancienne démocratie chrétienne, qui seraient beaucoup plus apparentés en France, genre à l'UDF ou à des... c'est-à-dire que la gauche italienne, c'est comme si on avait de Mélenchon à l'UDF. Hein. Enfin, je caricature, parce que... Enfin, c'est pas que j'ai caricature, c'est que ça n'a pas beaucoup de sens, c'est parallèle, dans le sens où les contextes sont très très différents. Mais pour vous indiquer que là aussi, et d'ailleurs ce sera sûrement un des enjeux du gouvernement Prodi, nommé depuis quelques mois, que de faire tenir ensemble des composantes aussi diversifiées.
Justement, je crois que ce qui a beaucoup étonné en France, c'est notamment à l'occasion justement de la courte victoire de la gauche récemment, c'est la légitimité de Berlusconi et de ses alliances. Et le fait qu'il soit visiblement pas mis au banc par l'électorat, quoi.
Oui, c'est
qui est expliqué par des voilà, il y a le terme de populisme qui a été brandi, que nous on avait pas mal discuté quand on avait invité Annie Colova, justement qui parlait du danger de ce genre de qualificatif, quoi. Est-ce que vous pourriez parler justement un petit peu de ça, de comment est-ce que Silvio Berlusconi se légitime, et comment expliquer en fait ce qui nous a beaucoup étonné, quoi, à savoir le fait que l'électorat se détourne pas entièrement de lui, soit pas aussi effrayé que l'était par exemple la presse européenne, etc.
Oui, alors ça, il y a beaucoup de questions dans votre question, mais si vous voulez, je peux peut-être, pour essayer d'y répondre, je veux partir effectivement des dernières élections, là, donc de c'était mai ou avril, on ne se souvient plus, en fait, de 2006. Effectivement, quand vous lisez la presse italienne, quand vous lisiez la presse italienne internationale avant ces élections, c'était la défaite annoncée de la droite berlusconienne. La gauche italienne pensait gagner haut la main les élections, et même la droite berlusconienne avait anticipé une défaite. La preuve, c'est qu'ils ont, au dernier moment, changé leur électorale en faisant une loi électorale totalement proportionnelle, certainement dans l'espoir de sauver les meubles. Donc ils avaient eux-mêmes anticipé une défaite électorale. Et effectivement, au moment du vote, je rappelle que la gauche est majoritaire, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, qu'à la Chambre des députés, mais qu'elle a acquis cette majorité à 25 000 voix. C'est dérisoire, hein, 25 000 voix, c'était, je crois, moins de 0,5% des votants. C'est-à-dire, c'est une petite ville, c'est un petit quartier d'une ville. Hein. Donc c'est absolument dérisoire. Et ça a étonné tout le monde, d'ailleurs. En premier chef, ça a étonné beaucoup de leaders de droite. Et moi, je pense que c'est quand même le signe, et ça me permettra aussi peut-être de revenir ensuite à un élément de votre question, c'est quand même le signe que, contrairement à ce qu'on a beaucoup pu penser, à ce qu'on a pu penser aussi bien des commentateurs politiques que des hommes politiques, le berlusconisme, ou plus généralement la nouvelle droite italienne, c'est-à-dire le berlusconisme et ses alliés, est un phénomène social, un phénomène politique, qui est le produit d'un ancrage très très fort sur le territoire, de la mise en place sur à peu près une dizaine d'années, donc même un peu plus, entre 1994 et 2006, il y a eu un travail de mobilisation de ressources de la part de Berlusconi et de ses alliés, d'ancrage du parti au niveau local, de constitution de relations relativement fortes avec des groupes sociaux organisés, avec des intérêts économiques, avec des milieux associatifs, etc. Alors on pourra revenir, si ça vous intéresse, sur ce travail de... Parce que, si vous voulez, d'une certaine manière, la gauche, certains commentateurs, en pensant... Alors ça me permet de rebondir sur le populisme. En pensant toujours Berlusconi, ou le berlusconisme, on va dire, parce que c'est pas Berlusconi tout seul, c'est tout ce qu'il y a autour de lui, mais enfin, on va dire, mettons le berlusconisme, dans les catégories de... Alors de l'exceptionnel, du populisme, de la pathologie, de la crise de la démocratie. Alors c'est le modèle populiste qui était surtout d'ailleurs mobilisé dans les années 95-2000, ces années beaucoup moins aux dernières élections, parce que le phénomène Berlusconi s'est un petit peu, je dirais, naturalisé. L'hypothèse populiste, c'était de dire, c'est une pathologie démocratique, c'est lié à l'incompétence des électeurs, les électeurs qui c'est les électeurs Oui, incompétents qui votent Berlusconi, qui sont scotchés devant la télé du matin au soir par les télécraties, c'était ça en gros, hein, le concept, je dirais, le concept ou la notion scientifique de télécratie, c'est rien d'autre que la traduction chez les intellectuels de « ils sont scotchés devant la télé chez les autres hein. ». Donc c'était cette vision de dire « c'est le résultat d'une erreur d'appréciation de la part de groupes sociaux qui sont souvent ça pouvait être envoyé on parlait souvent d'un ménagère de moins de 50 ans, la casaling en Italie, c'est une petite imaginaire de ce que ce serait l'équivalent d'un ménagère de moins de 50 ans en France. Ces groupes dont qu'on renvoie à leur propre incompétence, et le Berlusconi serait le produit de cette incompétence, voire des pulsions autoritaires, racistes de certains milieux populaires. Je pense que là, c'était vraiment une... Et la gauche a pensé ça comme... La gauche et certains intellectuels ont pensé donc le Berlusconi comme une espèce de truc exceptionnel. Alors même au début, on pensait que c'était quelque chose qui allait pas durer, puisque c'était... On comparait ça au poujadisme, on comparait ça au boulangisme, c'est la fièvre, hein, c'est la fièvre de antipolitique, et puis ensuite, ça retombe parce qu'il n'y a pas les moyens de gouverner. Or, de quoi on s'est rendu compte entre ces années, disons 94 jusqu'à 2001, et puis encore en 2006 avec cette défaite très très courte qui a étonné tout le monde, c'est que Forza Italia et le berlusconisme, c'est pas uniquement quelque chose qu'on peut interpréter au regard d'un électorat qui serait perdu et qui voterait pour un démagogue qui offre du jeu, enfin du pain et du cirque à une foule totalement subjuguée. C'est aussi tout un travail très très long de constitution d'un appareil politique dont on peut résumer hein, les deux processus qui me semblent importants à noter. Et qui sont certainement, qui interrogent au-delà du cas Berlusconi sur la transformation des partis politiques au moins en Europe. Hein, pourquoi cette réussite? C'est parce que Berlusconi, je l'ai dit, est un chef d'entreprise très, très, très riche et que c'est vrai qu'au moins au début, ce serait intéressant de travailler sur la façon dont le parti Forza Italia s'est vraiment calqué sur les structures de l'entreprise. Hein, Berlusconi a une entreprise qui s'appelle Fininvest, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui est une entreprise qui a une caractéristique. C'est qu'elle est structurée sur l'ensemble du territoire italien. Donc il y a des représentants régionaux. Et en 94, quand il commence à décider de faire de la politique, je vous rappelle que le parti est créé en janvier et qui remporte 20% des voix en mars. C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Ce succès est largement lié au fait qu'il va y avoir vraiment une mobilisation explicite des ressources entrepreneuriales pour la constitution d'un parti. Et le parti va se calquer, va se modeler sur les entreprises. Hein. La plupart, enfin une partie importante des candidats, ça va être des cadres de la Fininvest, ou alors des gens qui font partie des réseaux de l'encadrement régional de la Fininvest, des clients, des dirigeants de chambres de commerce, ou ce qu'on appelle en Italie des professionnistes, des notaires, des avocats qui travaillent un petit peu en contact étroit avec cet univers des affaires. La structure, je dirais, nationale de Forza Italia, elle est pratiquement identique, je dirais là aussi, elle n'est pas identique, mais elle est pratiquement identique à celle de la Fininvest. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, on a presque l'impression que dans ces années-là, c'est des gens qui montent un parti comme ils feraient une campagne publicitaire. Hein. D'ailleurs, il y a aussi un truc intéressant, c'est tous les usages que va faire Berlusconi des techniques du marketing publicitaire dans la constitution. En tout cas, là, je répète bien, c'est vraiment plutôt au début, hein, 94, dans la sélection des candidats, on fait faire du media training, dans la distribution de mallettes du candidat, etc. Donc il y a tout un travail de constitution du parti autour de ces activités de type managérial, de marketing qui interroge sur ça. Et après, si je peux, ça c'est un phénomène important, mais qui est un phénomène qui très très vite perd de son importance, parce que si vous voulez créer une entreprise, une machine électorale pour aller à des élections législatives qui à l'époque se passent au scrutin majoritaire, j'allais dire, c'est jamais que trouver 600 gus sur le territoire. Trouver 600 gus sur le territoire, si vous êtes Berlusconi, que vous avez des grandes entreprises qui sont structurées partout dans les régions italiennes, c'est pas très compliqué. Hein. Par contre, ensuite. Faire un parti politique qui s'ancre sur le territoire et qui tient pendant beaucoup plus que... C'est-à-dire qui, c'est pratiquement impossible de le faire avec, les ressources mêmes de l'entreprise. Hein. Il faut aller aux élections régionales, il faut aller aussi aux élections locales. Vous avez plein de gens aussi qui, en 94, se font élire députés ou se font élire élus locaux autour de Forza Italia parce qu'ils appartiennent à ces réseaux du milieu d'affaires locaux dont j'ai parlé. Et puis qui ensuite s'en vont de la politique parce qu'ils n'intéressent pas, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'on met pas assez d'argent. Enfin, donc il va falloir trouver toute une série de gens, de militants et surtout d'élus locaux. Et où est-ce que Forza Italia va les trouver? C'est dans, je dirais, en grande partie, hein, pas uniquement, mais en grande partie, dans les anciens professionnels de la politique qui appartenaient, qui à la démocratie chrétienne, au petit parti laïque, parti socialiste, etc., qui vont trouver dans Forza Italia un lieu de reclassement, hein, pour certains, un lieu de reclassement politique, et aussi un lieu de promotion politique. C'est-à-dire Forza Italia va devenir un peu le réceptacle qui va permettre la reconversion de toute une série de petits notables locaux, d'élites professionnelles de la politique, qui soit étaient complètement relégués avant 92 parce que étaient totalement il y avait des positions de pouvoir très très faibles, hein, soit ont été laminés par Tangentopoli et les grands scandales de corruption, hein. Et ça va devenir un label, hein. Moi je fais une enquête là dans des petites villes de l'Italie, dans une ville d'Italie du Nord qui s'appelle Cuneo où Forza Italia est assez importante. L'essentiel de la classe politique locale, municipale et provinciale, c'est l'équivalent du département de Forza Italia, c'est des anciens, surtout des anciens républicains, enfin je ne vais pas entrer dans le détail de la vie politique, mais des anciens, des petits partis qu'on appelait les petits partis laïques, qui étaient les petits partis liés à la démocratie chrétienne, des anciens démocrates chrétiens, ou alors des réseaux qui ont du pouvoir politique et social local, par exemple de certains syndicats agricoles, qui était structurellement lié à la démocratie chrétienne. Donc je crois que ce phénomène est très important, parce que, s'il permet de critiquer la notion de populisme, c'est de dire, arrêtons de penser toujours ces choses-là dans les catégories de l'exceptionnel, de la pathologie. Je veux dire, c'est des logiques très, très, normales, au sens neutre du terme, hein, de fonctionnement du jeu politique, de la compétition politique, qui font que des partis comme Forza Italia, ça peuvent s'implanter durablement dans l'espace politique.
Alors au final, après deux expériences de gouvernement, de Berlusconi, qu'est-ce qui se dégage? Est-ce qu'il y a une véritable idéologie, une base idéologique, est-ce que c'est un vrai parti de droite avec une culture, une idéologie, tout ça? Ou est-ce que c'est le bon sens libéral près de chez vous, ou c'est vraiment être au service d'intérêts particuliers ou industriels? Est-ce qu'il se dégage vraiment
Je compléterai en disant qu'est-ce qui les distingue en fait de la droite classique, c'est quoi les valeurs, c'est quoi le programme, quel est le fondement qui fait que ça marche au-delà de leur réseau militant.
Oui, c'est une question. Oui, toutes vos questions sont difficiles parce que je pense qu'effectivement, quand on regarde les discours de Berlusconi, etc., c'est un véritable parti de droite, dans le sens c'est un parti qui revendique très explicitement des valeurs de droite. Et par exemple, quelque chose qui est très 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 marquant en Italie, c'est la virulence du discours anticommuniste. C'est-à-dire que le thème anticommuniste est mobilisé par Berlusconi de manière constante, alors que quand on voit les communistes italiens maintenant, ils sont quand même très très éloignés ils n'ont pas un couteau entre les dents, hein. C'est plutôt des cas de sup, certains, ils ont plutôt des gueules de cas de sup que des gueules de dangereux activistes. Mais le discours anticommuniste est toujours réactivé par Berlusconi, et à qui il a redonné un sens de, pourrait-on dire, être contre les communistes, c'est être contre l'État, contre la fonction publique, donc être pour le marché, etc. Alors effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'entre-temps, la gauche italienne, en tout cas la gauche de gouvernement, comme toutes les gauches européennes, s'est largement convertie à la culture du marché, pour le dire très très vite. C'est largement convertie aux privatisations, pour des raisons d'ailleurs qui sont peut-être pas uniquement des raisons idéologiques, mais qu'on pourrait essayer d'analyser, mais enfin là n'est pas le propos. Et donc, effectivement, on voit très bien comment Berlusconi tente, justement, à mon avis, de trouver dans ce discours anticommuniste, cette valorisation du marché, quelque chose qui lui permet de se différencier, au moins dans le débat idéologique et le débat d'idées, d'une gauche, alors que la différence n'est peut-être pas aussi marquée qu'on veut bien le croire. À côté de ça, il y a quand même toute une série de discours de Berlusconi qui sont quand même très inquiétants. Alors, je dis toujours Berlusconi, il ne faut pas non plus individualiser, c'est Berlusconi ou du Berlusconi. Par exemple, notamment quand il a pris des positions qui me semblent très 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 symptomatiques de à la fois du discours idéologique dont il est porteur et des groupes sociaux qui peuvent se rallier ou ce discours idéologique. Par exemple, quasiment en justifiant la fraude fiscale, hein, en disant dans un pays où la ponction fiscale dépasse 50%, il est légitime de frauder. Hein, lui-même, d'ailleurs, avait été largement accusé. Il n'a jamais été condamné, mais il a été accusé ou des gens ou ses proches de plusieurs délits fiscaux ou économiques. Je crois que par exemple le discours sur la légalité est très important aussi dans le cas de Berlusconi pour essayer aussi de si on essaie de construire ces positionnements de type idéologique. Vous savez certainement que Berlusconi la première fois qu'il arrive au pouvoir en 94 a été la cible de toute une série de procès. Il a été accusé de toute une série de malversations assez graves, de corruption, etc. Lui-même n'a jamais été condamné, même s'il y a eu des procès où il y a eu des prescriptions, donc il y a des faits qui lui ont été attribués, mais il y avait prescription. Enfin, il n'a jamais été condamné. Par contre, il y a des gens très proches de lui, un de ses avocats très très proche, ou quelqu'un qui s'appelle Deloutri, qui était un de ses lieutenants, qui ont été condamnés pour des affaires politico-financières très lourdes. Hein. Et c'est vrai que une partie de la gauche a construit aussi la différenciation idéologique avec Berlusconi sur le thème de la légalité. Et vous vous souvenez certainement des rondes citoyennes qu'il y avait eu en 2002. Avec le thème de la défense du droit, la défense de la Constitution, ensuite au-delà de la défense de la légalité, a été un axe porteur de la contestation anti-berlusconienne, plus ou moins reprise d'ailleurs par les partis de la gauche de gouvernement, hein, de façon pas immédiate.
Mais justement, là, vous nous expliquez que le berlusconisme, c'est pas tellement, justement, c'est pas une exception, c'est pas une anomalie de la démocratie italienne, c'est plus une sorte de mutation, quoi, de cette démocratie. Je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus rassurant.
Ah non, mais je dis pas que c'est rassurant.
Est-ce que pour pas terminer sur une note totalement pessimiste, on pourrait évoquer justement plus largement la question de la contestation à Berlusconi?
Oui, juste quand même pour revenir à ce que vous dites, je dis si c'est rassurant ou non, moi je pense que justement, je pense qu'il y a des implications politiques, raisonner sur le berlusconisme en essayant de retracer, ce que j'ai fait très rapidement, les logiques sociales d'implantation de ces groupes et donc de légitimation de toute une série de discours qui auparavant étaient classés très à droite et qui vont devenir des discours presque, je dirais, acceptables dans l'espace politique. Je pense que justement réfléchir sur les phénomènes concrets, les logiques sociales concrètes qui font que ces phénomènes adviennent peut avoir un impact sur le travail politique des opposants à Berlusconi, qui à mon sens doit aller au-delà de la simple incantation, la logique incantatoire de la dénonciation du populisme, de son illégalité, etc. Il y a peu de temps, moi j'étais dans un débat en Italie avec des juges. Alors c'est pas vraiment Berlusconi, mais enfin des juges anti-mafia, et on était dans un grand théâtre, il y avait plein de monde, et les juges disent c'est dégueulasse, on a fait une lutte contre ces hommes politiques qui étaient liés à la mafia, même si c'était le cas d'Andreotti qui était discuté, même s'il a pas été condamné, il y a toute une série d'éléments dans le procès qui montrent qu'il était en liaison avec la mafia, qu'il a été lui directement ou ses lieutenants en Sicile ont eu des pratiques qui étaient très répréhensible à la fois moralement et pénalement, et ils sont là à dire et pourtant tout le monde s'en fout, on n'en parle plus, ça a plus d'effet, hein. Et d'une certaine manière, je trouve que, et on voit, et c'est peut-être une tendance, une certaine intelligentsia de la gauche italienne, hein, ou de certains milieux de la gauche italienne, de se complaire dans l'anti-berlusconisme en disant, regardez, c'est un pourri, regardez, c'est dégueulasse, regardez, c'est un populiste, regardez, c'est avec l'extrême droite, etc. Hein, sans comprendre aussi que le terrain qu'a gagné Berlusconi, même s'il n'est plus au pouvoir, hein, c'est justement sur la constitution d'un appareil politique qui avait des capacités à nouer des relations avec le territoire. Ce qui fait que la gauche ne pose pas, par exemple, la question de l'incapacité qu'elle peut être de construire aussi des relations avec du territoire, avec des groupes sociaux, dans certaines régions d'Italie. Moi, je connais bien le sud de l'Italie. Moi, j'ai fait la campagne, enfin, j'ai pas fait la campagne, mais j'ai suivi la campagne électorale d'un militant communiste de Rifondazione dans les quartiers populaires de Palerme. C'est des gens qui ne peuvent pas faire campagne, ne savent pas comment faire campagne, parce qu'ils n'ont plus aucune relation structurée avec des groupes sur le territoire. C'est-à-dire, quand ils font campagne, ils vont faire du porte-à-porte, comme, alors que quand vous parlez avec ces mêmes militants de cette même zone, ils vous expliquent que ne serait-ce que 10-15 ans après, je ne dis pas qu'ils étaient qu'ils étaient seuls sur cette zone. Il y avait des concurrents, mais enfin, ils avaient toute une série de relais, de type associatif, de type syndicaux, etc., hein, qu'ils ont, en certaine manière, relativement perdu. Donc je pense que c'était intéressant. Je pense que, justement, l'anti-berlusconisme a été certainement un discours très très fort d'unification de la gauche italienne. Hein. Qu'est-ce qui tient ensemble Rifondazione, dont je parlais, et Prodi, d'une certaine manière, qu'est-ce qui a tenu ensemble la gauche italienne avant les élections, c'est aussi d'une certaine manière l'anti-berlusconisme, c'est-à-dire il faut nous sortir de cette espèce de corrompu, ou en tout cas de mec qui n'a pas de légitimité internationale, enfin qui relègue l'Italie dans un rang très 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 secondaire et qui l'a fait transformer pour certains disaient en une république bananière, c'est exagéré, mais il y avait cette idée-là. Hein. Donc l'anti-berlusconisme a été un ciment idéologique très très fort de la gauche. Mais en même temps, l'espèce d'auto-satisfaction à répéter dans les médias et ailleurs que le berlusconisme est une pathologie populiste de la démocratie a empêché de s'interroger hein, sur justement l'incapacité aussi de la gauche à lutter avec le berlusconisme sur le terrain de la mobilisation, sur le terrain de la constitution d'entreprises politiques et pas uniquement sur le terrain idéologique. Et je voudrais rajouter aussi là-dessus qu'une partie, bien évidemment pas toute la gauche italienne, une partie de la gauche italienne, même la plus radicalisée, sans même s'en rendre compte, à travers justement le discours anti-berlusconi, a pu parfois véhiculer une sorte de mépris de classe ou de racisme de classe à l'envers. Je me souviens que quand il y avait eu à Paris le Salon du Livre sur l'Italie, ça avait été un moment où il y avait eu pas mal de mobilisations anti-berlusconiennes et on avait fait parler beaucoup d'intellectuels italiens en France, une cinéaste italienne dont le nom m'échappe, avait fait des interviews, mais d'une violence sur l'électorat de Berlusconi, qui était d'un racisme délirant, enfin, du racisme de l'intelligence, comme disait Bourdieu, enfin, avec évidemment plein de guillemets. Hein. C'est-à-dire vraiment cette vision d'un peuple italien complètement gangréné par la bêtise, par la télévision, par la médiocrité et par la vulgarité, capable donc de voter Berlusconi. Je pense que si une partie de la gauche, que d'ailleurs une partie de la gauche a fait, avait réussi peut-être aussi à s'interroger sur les raisons qui faisaient que ces groupes pouvaient, ou certains individus pouvaient voter Berlusconi, parce que et pour les raisons pour lesquelles aussi ils étaient incapables de nouer des relations avec ces groupes, peut-être que ça aurait eu des effets politiques un peu plus importants. Je ne sais pas si j'ai été très, très clair, mais bon.
Si, si, mais en deux minutes, à moins que Cédric, tu veuilles...
Une petite question. Et les relations avec les organisations syndicales de la gauche, si tu as quelques infos là-dessus.
C'est assez compliqué parce qu'une partie... Alors ça, je ne suis pas un grand spécialiste, mais pour le dire très très vite, il y a deux choses qui ont joué. Une partie des organisations syndicales, notamment dans les années 90, sont allées avec, disons, avec les partis de gauche, ont partagé cette espèce de reconversion aux privatisations au néolibéralisme, parce que c'était certainement un moyen de renégocier des positions de pouvoir syndical dans une situation de crise. Et que le monde syndical italien a toujours été en tension entre justement cette, cette volonté de d'aider, poursuivre et de la transformation réformiste, pourrait-on dire, de la gauche, de gouvernement, et une capacité de mobilisation critique très forte que les organisations syndicales ont manifestée plusieurs fois, sur les réformes des retraites, etc. Hein. Donc cette tension, d'ailleurs, que les organisations syndicales peuvent ressentir, c'est certainement la tension de l'ensemble de la gauche entre, disons, une culture de gouvernement... qui s'est imposé à beaucoup d'hommes politiques de gauche vers le réformisme et l'acceptation, en gros, du cadre néolibéral, et en même temps la conscience que ces politiques-là les éloignent d'une partie de leur base militante et électorale.
Bah, je pense qu'on va conclure parce qu'il est temps, donc on te remercie. On rappelle que tu vas publier Mafia, justice et politique en Italie en janvier 2007 aux éditions Cartala. Peut-être qu'on aura d'ailleurs l'occasion d'en reparler dans cette émission. Pierre, tu voulais...
Non, si j'ai bien compris, le berlusconisme, t'as choisi plutôt un sujet porteur, puisque finalement, c'est une deuxième défaite, il perd une deuxième fois le pouvoir, mais c'est une force qui devrait rester dans l'espace politique italien à long terme.
Effectivement, ce qui me semblait toujours intéressant, alors aussi pour revenir peut-être aux erreurs de la gauche, c'est que toujours centré sur Berlusconi, sur le personnage Berlusconi, c'est oublié, c'est pour ça qu'on peut parler de berlusconisme ou d'autres choses, c'est oublié qu'en fait, même si Berlusconi quitte la vie politique pour des raisons X ou Y dans les mois ou dans les années à venir, en fait, la transformation du champ politique italien qu'on peut lier au berlusconisme est effectivement pérenne et durable. Et donc, c'est pas en anticipant une sortie de la politique de Berlusconi qu'on peut penser résoudre les problèmes qui se posent à la société, à la politique italienne.
Voilà, quand on est à Dumont, on fait de l'ouvrage. Alors ce soir, il y avait, si j'ai bien compris, on appelle ça des casalines. Les casalines à nos côtés ce soir, c'était Alex, Juliette et Juliette. Il y avait aussi Guillaume qui fait un peu la tête, car il est en train de comprendre qu'il ne sera pas le candidat unique de la gauche antilibérale. Il y avait aussi Cédric qui n'oublie jamais les chips quand il amène de la bière. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. La semaine prochaine, nous recevrons à ce micro même le Père Noël. Nous profiterons de son CDD au carrefour de la Porte de Montreuil pour parler avec lui du travail précaire au sein de la grande distribution. Et puis nous en profiterons pour vous donner la recette du baba au Rennes. Voilà, si une semaine sans nous, c'est trop, vous pouvez réécouter cette émission tous les vendredis de 13h30 de midi 30 à 14h sur cette antenne. Et puis vous pouvez retrouver sur le site des Oreilles Loin du Front, loldf.org, et vous retrouverez toutes les émissions, les chroniques et tout un tas de choses. Voilà, c'est l'heure de Claudia, puisque ce soir j'ai de la fièvre et que toi tu meurs de froid.